nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Les éditions Monel Ayo viennent de publier un superbe ouvrage d'art consacré à Mazarin. Cet ouvrage s'intitule « Mazarin, les lettres et les arts ». C'est un ouvrage coédité avec la bibliothèque Mazarine, laquelle est située dans le palais de l'Institut de France. Alors, Mazarin est étudié, si je puis dire, sous toutes ses coutures. Et Claude Dulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous parler d'un de vos articles que vous avez rédigé pour cet ouvrage magnifique, « Mazarin et les biens de ce monde ». Alors, vous connaissez parfaitement l'œuvre de Mazarin, et notamment la question financière et le personnage de Mazarin, puisque vous êtes l'auteur de deux ouvrages, « Mazarin et l'argent », publié en 2003 par l'École des Chartes, et quelques années auparavant, « La fortune de Mazarin », publié chez Perrin. Alors, Claude Dulon, comment l'historien peut-il obtenir des informations pour établir et évaluer la fortune d'un personnage à l'époque moderne ?
Eh bien, d'abord, il faut savoir aller aux sources. Il est évident que l'enrichissement de Mazarin, comme d'ailleurs celui de Richelieu, était parfois à la limite de la régularité, mais nous allons en reparler. Donc, il ne faut pas se contenter de ce qui est imprimé, il faut voir des documents et comprendre quelles étaient les rentrées annexes que pouvait avoir un ministre à l'époque. Et c'est évidemment assez compliqué à faire comprendre aujourd'hui. Par exemple, un ministre, toutes les charges de l'État étaient vénales, ce qu'on oublie. Pour être secrétaire d'État, pour être receveur des impôts, même, il fallait acheter sa charge. C'est comme si on demandait à un fonctionnaire aujourd'hui d'acheter sa charge. Parce que l'État, depuis qu'il était devenu un État moderne, un grand pays comme la France, c'est un cas d'ailleurs général en Europe à l'époque, n'arrivait pas à subvenir à ses besoins. Et au fond, c'est l'État qui avait inventé de vendre les charges. C'est pas les ministres qui ont imaginé de vendre des charges pour se faire de l'argent. Mmh. Seulement, naturellement, ils en tiraient quand même profit. De deux façons, ils pouvaient vendre la charge plus chère qu'elle n'était censée coûter réellement, et quelquefois ils acceptaient des donatifs, comme on disait, pour favoriser tel ou tel candidat à l'achat d'une charge.
Alors nous allons revenir sur les détails de la fortune de Mazarin, mais de manière générale, quelle place a cette fortune dans l'échelle des fortunes au temps moderne, donc au XVIIe siècle ?
Écoutez, moi j'ai évalué, après de longs calculs que je vous épargne, la fortune de Mazarin à environ 35 millions de livres. Alors là encore, il faudrait évaluer les livres en francs d'aujourd'hui, et ça sera un autre calcul qui a déjà bougé depuis, dont le résultat n'est déjà plus le même depuis mes travaux. Disons que c'est une grosse fortune pour l'époque. C'est la fortune des Condés. Les Condés étaient premiers princes du sang, voilà, pour vous donner une équivalence.
Alors, vous avez une très belle phrase, vous dites, le prédécesseur, en l'occurrence Richelieu, on constate à son sujet aisément que les revenus qu'on lui connaissait n'auraient pu lui permettre de faire les dépenses qu'il fit. Mais nous n'avons pas les moyens de prouver de quelle façon il comblait la différence. Pour Mazarin, au contraire, on connaît ses malchances, et ses malchances, ce sont tout simplement ses procès pour des questions d'argent.
C'est la chance de l'historien. Il a eu une épreuve terrible politiquement dans sa vie, qui était la Fronde, qui était une espèce de révolte généralisée des Français, produite justement par l'état de guerre avec la maison d'Autriche, et donc l'augmentation des impôts. Il a vécu là des années très dures, et il a été mis en procès lui-même pour sa gestion des affaires publiques. Et on l'a accusé, non sans quelques raisons, d'enrichissement personnel, et on a surtout traîné en justice ses banquiers. Et je me permets de dire que les témoignages de ces banquiers et leurs registres n'avaient jamais été étudiés avant que tout d'un coup ça me vienne à l'idée. Et c'est évidemment là très intéressant, parce que sous les noms de ces banquiers, ils faisaient certaines opérations qu'ils n'auraient pas pu faire directement en tant que ministre.
Les banquiers sont plus que des simples banquiers, sont des véritables partenaires de Mazarin.
Oui, les trois banquiers essentiels, Cantarini, Serrantoni, Senami, trois Italiens, comme vous voyez, qui étaient des banquiers assez puissants, qui avaient des comptoirs dans différents pays, et notamment en France, ont été, oui, presque des associés.
Il y a eu, il y a véritablement un lien entre les deux parties. J'en viens à la nature même, en fait, des revenus de Mazarin. Vous avez parlé tout à l'heure des donatifs qui correspondent un peu à des pots de vin, finalement.
Oui. Alors, l'opération, les charges étaient vénales, toutes les charges. Si vous vouliez devenir agent de police, vous deviez acheter votre charge, n'est-ce pas ? Alors, il fallait trouver de l'argent, mais il n'y avait pas un nombre extensible de charges, encore que la monarchie en créait beaucoup pour pouvoir se faire de l'argent. Alors, par exemple, on disait au ministre, occupez-vous de vendre les 30 nouvelles charges de je ne sais quoi, de directeur de la voirie ou d'inspecteur de la voirie que nous avons créées. Alors donc, c'était à lui de les vendre. Et naturellement, il faisait un bénéfice sur la vente. Alors ça, c'était un moyen de
s'enrichir.
Oui.
Alors, il y a d'autres moyens. Je voudrais m'arrêter sur deux autres. Bon, il y a les gratifications royales, mais il y a aussi les prises de mer. Oui. Les prises de mer étaient importantes ?
Ah oui, c'était important. Alors là aussi, c'était un don du roi. Le roi, qui lui-même n'arrivait pas à payer ses serviteurs, faisait don de certaines recettes de l'État à ses ministres ou à d'autres, et aux amiraux par exemple. Alors Mazarin, en effet, a eu droit à une part des prises de mer. Oui, ça pouvait être important, ça dépendait du nombre des prises, et Mazarin, qui était très habile, s'arrangeait, et qui était très artiste, s'arrangeait avec les armateurs ou avec les commandants des bateaux, pour qu'on lui réservât la meilleure part des prises, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours de l'argent, mais pouvaient être des objets d'art, puisque tout se transportait par mer, évidemment.
Alors, il y a un autre moyen, ce sont les gouvernements de province. En quoi consistent, en fait, ces revenus ?
Ah bah ça, c'est très intéressant, parce que quand vous êtes gouverneur d'une province, mettons la Saintonge et le Nice, dont Mazarin était gouverneur, vous pouvez vendre toutes les charges qui dépendent de cette province. Alors ça va du petit collecteur du bac de je ne sais quelle petite rivière jusqu'au chef de ce que nous appelions de la police dans tel département. Il y a d'infinies charges. Tous les métiers publics, toutes les fonctions publiques étaient des charges. Ça, c'est pas les ministres qui l'ont inventé pour s'enrichir, c'est la monarchie qui a vendu, ça nous paraît inouï. Mais pour être préfet, aujourd'hui, imaginez qu'on dise au préfet, ça vaut tant. On nomme un préfet, on ne lui fait pas acheter sa charge.
Cela constitue la source principale de revenus, le gouvernement des provinces, où on arrive à avoir une répartition en pourcentage de sa fortune, la source de ses revenus.
Difficile parce qu'il y a des chiffres, on n'a pas tous les chiffres naturellement. Moi, je pense que oui, je pense que la vente de charges est certainement la partie la plus importante, puisqu'elle se composait et du prix de la charge elle-même, et du donatif, c'est-à-dire du pourboire, enfin de ce qu'on exigeait en plus du récipiendaire. On disait au receveur des douanes, si vous voulez, bon, votre charge vaut tant, vous payez tant votre charge, mais en plus, il faudrait nous donner un petit quelque chose. Alors, si vous voulez, c'est une escalade, une désescalade à trois étages. Le roi ou la reine, dit qui ne peut pas payer son ministre convenablement, lui dit « Bon, je vous fais don de toutes les recettes du gouvernement de Saintonge ». Alors, et lui-même, une fois qu'il est gouverneur de Saintonge, dit aux différentes autorités, eh bien, voilà, vous m'encaissez pour moi le prix de toutes les charges à vendre, mais en plus, je veux un petit quelque chose.
Il y a un système de spéculation. La fronde constitue vraiment une date très importante dans cette question d'argent, dans cette question de fortune. Vous écrivez que, avant la fronde, les banquiers ont naturellement un rôle très important. Après la fronde, ils sont ruinés, ces banquiers, c'est ce que vous écrivez. Et il s'agit de trouver un autre mécanisme. Et c'est là où vous mettez en avant le personnage de Fouquet.
Alors, en effet, la fronde, Mazarin lui-même a eu beaucoup de mal à se tirer de la fronde. Il a été en exil, comme vous savez. Il a été à ce moment-là, les revenus ne rentraient plus. Et il a réussi à reprendre le pouvoir avec l'appui de la régente Anne d'Autriche, mais après un an d'exil, dans des conditions très difficiles en Allemagne. Et là, il a fallu remonter un système, car les malheureux banquiers, eux, n'avaient pas échappé. On avait mis la main sur eux. On n'avait pas pu mettre la main sur eux. Et le Parlement frondeur avait ruiné les banquiers en leur imposant des amendes extrêmement fortes. Alors Mazarin est revenu au pouvoir et il a fallu mettre un nouveau système en place. Alors je ne dirais pas que Fouquet a été un peu un agent de Mazarin, simplement Fouquet étant surintendant des finances, était bien obligé d'obéir à Mazarin qui était redevenu Premier ministre. Mmh. Et Mazarin, c'est ce que Fouquet lui-même dira à son procès, car il ne faut pas oublier que Fouquet lui-même s'était beaucoup enrichi. Mmh. Alors Fouquet a dit à son procès plus tard, le cardinal me disait « il me faut tant à telle date » et puis c'est tout.
Mmh. Alors le but n'est évidemment pas de s'enrichir pour s'enrichir, il y a l'État, il s'agit d'appliquer une politique, c'est bien cela ?
Naturellement, mais je pense qu'avant de le dire, il faut peut-être dire que le second personnage après Fouquet, qui a considérablement aidé Mazarin, c'est Colbert.
Mmh, mmh. Oui, alors Colbert a une excellente réputation, c'est ce que vous écrivez dans nos manuels d'histoire, alors que tel que vous le présentez ici, on s'en fait une toute autre idée.
C'était un ambitieux, alors il a servi Mazarin pour arriver au pouvoir, il y est arrivé d'ailleurs sans ignorer que Mazarin, et après la Fronde, Mazarin a eu besoin d'encore plus d'argent qu'avant, parce qu'il avait quand même beaucoup perdu pendant la Fronde, et il lui a fallu se refaire.
Vous écrivez « Ces lettres font froid dans le dos, une totale absence de scrupules et d'équité, voire même un mépris des nécessités de l'État pour assurer l'enrichissement de son maître qui était, il est vrai, garant du sien. »
Hélas, oui, c'est vrai. C'est quand même un grand homme. Ce sont quand même deux grands hommes d'État.
Voilà. Alors, cette notion d'homme d'État est très importante. Hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'enrichir pour s'enrichir, mais bien de s'enrichir pour le bien de l'État, car l'argent est utilisé pour plusieurs charges, la diplomatie, la guerre, etc.
Alors, il ne faut pas oublier que nous avons été en guerre avec la maison d'Autriche pendant 15 ans, et que la guerre coûte très cher pour la bonne raison qu'il n'y a pas de conscription, et les armées sont payées. Et quand les armées ne sont pas payées, elles désertent. Les armées sont confiées à des chefs de guerre, à des spadassins qui ont réussi, qui eux-mêmes recrutent et qui se font payer très cher. L'argent est vraiment à l'époque le nerf de la guerre. Donc vraiment, les soldats désertent dès qu'ils ne sont plus payés. D'où l'importance de rentrer rapide.
La sécurité constitue aussi un des buts de cet enrichissement ? La sécurité de l'État ?
La sécurité de l'État, dans quel sens l'entendez-vous ? Parce que ça peut être plusieurs choses.
Sécurité intérieure, notamment au moment de la Fronde.
Naturellement, il y a les factieux. Alors, on peut acheter les factieux, ça ne marche pas toujours. Quelquefois, on est bien obligé quand même de les mettre en prison. Même Condé, premier prince du sang, n'a pas échappé à l'arrestation et à la prison. C'était difficile d'acheter Condé.
Oui. Alors, il est très difficile, hein, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas avoir un jugement catégorique, mais bien un jugement nuancé. On sait que le système que vous avez présenté, de natif gouvernement des provinces, etc., c'est un système qui peut très bien avoir ses dérives, très facilement avoir ses dérives. Est-ce qu'il en profitait ?
Oui, on ne peut pas dire le contraire, il en profitait, parce que tous ces donatifs, comme vous dites, qui s'ajoutaient au prix de la charge qu'on vendait, ça allait à lui, Mazarin. Mais le problème, c'est plutôt de savoir... Donc, il s'est enrichi, il n'y a aucune espèce de doute. Et il s'est fait faire des cadeaux également par la reine. Si la reine, je dis la reine parce qu'elle était régente. Louis XIV avait 5 ans quand Mazarin était au pouvoir. Alors, par exemple, quand au moment de la paix, les Espagnols ont payé des centaines de milliers de livres au moment de la paix des Pyrénées, eh bien, la régente en a donné une part à Mazarin, ce qui après tout était son droit comme un artisan de cette paix. Vous voyez, tout ça n'est pas absolument illégal.
Oui,
c'est le bon plaisir du souverain.
Oui, oui. Alors, ce qui est étonnant et un peu, on en sourit, c'est qu'il y a un mot que l'on retrouve régulièrement dans la correspondance de Mazarin, c'est « le peu ». Sous-entendu, j'ai peu d'argent.
Le peu que j'ai, oui, le voilà. Peu que j'ai tiré, oui. Ah oui, alors, si vous voulez, c'est pour ça, le pauvre qu'il a été. Richelieu s'est absolument enrichi autant que lui. Seulement, de Richelieu, d'abord, les gens mouraient de peur. Alors, à l'époque, on n'osait pas le critiquer. Mazarin était beaucoup plus facile à critiquer, cet Italien qui n'était pas un grand seigneur comme Mazarin. On ne savait pas trop d'où il sortait. La critique était beaucoup plus facile. Et puis surtout, on n'en pouvait plus. On avait eu Richelieu. On n'allait pas avoir encore un cardinal ministre. Alors, c'est le pauvre Mazarin qui a tout pris. Mais je ne crois pas qu'il ait fait pire au point de vue financier que Richelieu.
Il prêtait beaucoup ?
Prêtait ? Non, il prêtait pas. Il avançait, oui. Il lui est arrivé d'avancer quand vraiment les soldats n'étaient pas payés et qu'il fallait avancer. Alors, il avançait de l'argent, mais soyez tranquille, il le récupérait après d'une autre façon. C'était toujours ce même jeu, n'est-ce
ouais,
pas?
Oui, oui, oui. Alors, pour boucler la boucle, si je puis dire, à sa mort, il y a bien évidemment des legs et une partie de son argent revient à l'État par divers canaux.
Oui, alors c'est un problème très compliqué, la succession de Mazarin. Et là, tout de même, on se rend compte de ce qui avait été accumulé par le, tout ce que les nièces ont eu. Mazarin tenait beaucoup à être associé, à parenté à la famille de Richelieu, qui avait été son maître. Alors, il a marié une de ses nièces, la plus belle, Hortense, à l'héritier de Richelieu, qui a pris le titre de duc Mazarin. Le ménage n'a pas marché, mais ça, c'est pas notre affaire. Et alors là, on a des chiffres assez précis. On sait très bien ce que Luc Mazarin a hérité en tant qu'héritier de Mazarin. Mais on voit bien aussi la différence de ce qui s'est passé, car le duc Mazarin a été quasiment ruiné à la fin de sa vie parce qu'il n'avait pas les mêmes moyens que Mazarin d'augmenter sa fortune et d'éviter les impôts, d'éviter les divers frais qu'entraîne la gestion d'une fortune. Et ça, c'est très éclairant, les deux comparaisons. Les quelques 30 millions qu'a eu le duc Mazarin, il n'a pas pu vraiment les garder.
Oui, oui, oui.
Parce que lui, il ne pouvait pas payer, donner sans arrêt, acheter les gens ou dire « je suis le ministre, donc vous faites ça ».
Voilà, parce qu'il n'avait pas le pouvoir. À la différence, peut-être que vous l'expliquez dans l'article, d'une personne qui est au pouvoir aujourd'hui et qui change, qui peut changer de ministère ou bien rester à l'Assemblée nationale. Là, une personne qui perd le pouvoir, elle le perd définitivement.
Ah oui. Ah oui. Et l'exemple, je vous dis, on ne peut pas étudier la fortune de Mazarin sans étudier sa succession. Car on voit très exactement son successeur, avec autant de capital, a fini presque ruiné parce qu'il ne pouvait pas dire aux gens « faites ceci pour moi, servez-moi de prête-nom, achetez-moi ceci en votre nom ». Il ne pouvait pas, lui.
Alors, je me permets de vous citer, peut-être pour terminer, vous dites en fin d'article « l'erreur serait d'oublier l'essentiel alors que Mazarin, lui, tout en s'enrichissant, ne l'a jamais oublié. L'essentiel, c'est l'œuvre politique. Et l'œuvre politique, c'est quoi? C'est l'éducation de Louis XIV, c'est mettre fin à la guerre, etc. »
C'est la paix des Pyrénées, c'est le gain de quelques provinces et c'est d'avoir éduqué Louis XIV.
Vous lui reprochez plus...
Et d'avoir établi la paix civile, car d'avoir mis fin à la fronde et d'avoir permis à Louis XIV de régner dans un royaume à peu près en paix civile. C'est énorme, ça.
Vous lui reprochez un peu de ne pas avoir mis assez en avant cette idée, alors que souvent il biaise, il essaie de tergiverser. Bon, s'il avait dit clairement « moi j'œuvre à la construction de l'État », eh bien peut-être aurait-il donné une image de lui-même autre que celle que l'on a.
Oui, vous avez raison, il n'a pas... Alors, justement, certains de ceux qui l'ont étudié disent « mais un homme d'État malin doit avoir des écrivains à sa solde ». Et justement, Richelieu a fait ça admirablement. Richelieu, parce que français, a peut-être beaucoup mieux compris ça, et Richelieu s'est assuré tout de suite des turiféraires. Mazarin a peut-être fait l'erreur de ne pas payer, ce qui aurait été très utile, des gens pour faire son éloge. Et en effet, ça a joué contre lui. Et puis, il a eu le malheureux la fronde où les médisants s'en sont donnés à cœur joie et où on lui a prêté plus qu'on en faisait. Mais en fait, c'est Louis XIV qui lui a rendu justice en ne disant jamais rien contre sa mémoire, en protégeant sa famille. Oui, on peut dire qu'il a sauvé l'État, oui, à sa façon.
Eh bien, Claude Dulon, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à cet article paru dans ce magnifique ouvrage de photos et de textes, Mazarin, les lettres et les arts, aux éditions Monel Ayot. Et en ce qui vous concerne, Claude Dulon, vos deux ouvrages, Mazarin et l'argent, publié en 2003 à l'École des Chartes, ainsi que La fortune de Mazarin, paru chez Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau Focus.